Ma grand-mère était néerlandophone et comme j'ai un débit de parole assez soutenu et assez rapide, elle ne me comprenait pas du tout. Et donc, quand j'étais vraiment toute petite, donc à 6 ou 7 ans, ma maman m'a mise à l'académie à Braine-le-Comte pour espérer que je parle moins vite, que j'articule mieux. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à mieux articuler, mais je n'ai jamais réussi à diminuer mon débit de parole. Donc, je parlais de manière plus hachée, entre guillemets, mais toujours aussi rapide.
Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers.
L'académie, ça m'a vraiment transportée. J'ai fait toutes les années possibles, tout ce qui était les arts de la parole, donc que ce soit la diction-éloquence, la déclamation, les ateliers de groupe, etc. Et puis, j'ai d'abord fait une première année d'études en communication à l'ISFSC, qui est une école à Schaerbeek, parce que le conservatoire, ce n'était pas forcément des études qui étaient pleinement consenties par les parents. Et finalement, je me suis très vite rendu compte que voilà, ça ne me plaisait pas, les études en communication. Et donc, j'ai commencé le conservatoire à Mons après, donc dans la classe de Bernard Damien, pour être prof de déclamation après en académie. C'est un choix donc que j'ai un peu regretté, dans le sens où, en art oratoire au conservatoire à Mons, on a majoritairement eu cours avec lui, avec sa femme Anne-Marie Capelier, et on n'a pas eu d'autres intervenants, intervenantes. Pendant 4 ans, on a eu 2 projets par an avec le même prof ou la même prof, ce qui ne développe pas forcément beaucoup de réseau, et puis 2, même de connaissances sur soi-même, sur son propre jeu, ses capacités, et là où on peut dépasser ou pas ses limites. Et puis, c'était du coup des formes très classiques malgré tout. Donc, j'ai commencé à jouer un tout petit peu après les études, à faire un assistant à mise en scène à l'XL Théâtre, qui est devenu Le Rideau aujourd'hui, donc à la rue Goffard. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'en fait, passer ma vie à courir les castings, à avoir les désillusions, à ne pas savoir si j'allais pouvoir manger en fin de mois, à me dire quand est-ce que je vais quitter chez mes parents... Voilà, ça me convenait pas, j'avais vraiment besoin de plus de stabilité et j'ai fait pas mal de remplacements en académie, mais je m'étais toujours dit, si je ne pratique plus la scène, si je ne pratique plus le texte, si je ne pratique plus le stress que ça peut être aussi, je peux pas l'enseigner, je peux pas le transmettre, même en académie, si c'est, on peut dire que c'est moins professionnel que le conservatoire, mais voilà, pour enseigner quelque chose, je pense qu'il faut le vivre en tout cas régulièrement, si pas quotidiennement. Et donc j'ai aussi arrêté tout ce qui était les contrats de prof en académie. Surtout que l'autre défaut de la formation seule en scène et des arts oratoires, c'est qu'on est seul tout le temps. On est seul pendant les répétitions, on est seul dans les loges avant la représentation, on est seul sur scène, on est seul après. Et à force, c'est un peu triste. C'est là où le réseau est vraiment important, parce que plus on a de portes d'entrée, plus on a de contacts, plus on a de personnes ressources, mieux on sera aiguillé, mieux on sera outillé pour le monde d'après. Avoir un réseau, parfois, ça permet aussi de dire « j'ai un nouveau projet ». Je peux déjà contacter telle directrice de théâtre ou telle programmatrice pour au minimum parler de mon projet, espérer qu'il soit interpellant pour ces personnes, qu'elles le programment, qu'elles l'achètent, qu'elles le coproduisent. Ça permet toute une série de facilités par la suite. Et donc, pour moi, en tout cas, le réseau, et donc par réseau, c'est vraiment le réseau de personnes et ou d'institutions qui vont graviter autour d'un ou d'une artiste ou d'un collectif, est essentiel pour, en tout cas, développer sa carrière. On sort des conservatoires ou des écoles supérieures artistiques. Ça, s'il y a des... je parle vraiment toujours en théâtre parce que j'ai moins de connaissances dans les écoles des autres disciplines. Et on n'est pas formé à le monde d'après. On est formé à la scène, on est formé au texte, on est formé à travailler son corps dans l'espace, à travailler sa voix dans l'espace. Mais on ne nous apprend pas à écrire un budget, on ne nous apprend pas à écrire un dossier, on ne nous explique pas ce que c'est une production, une coproduction, qui sont les institutions. Donc, par exemple, tous les jeunes qui ont moins de 30 ans et qui sortent des écoles artistiques supérieures peuvent, à la COCOF, bénéficier d'un règlement qui s'appelle le fonds d'acteur et qui est une aide à l'engagement artistique pour les jeunes talents et qui sert de tremplin professionnel. J'aurais pu en bénéficier pendant 3 ans en sortant du conservatoire de Mons. Je ne connaissais pas la COCOF. En fait, j'ai découvert la COCOF en travaillant à la COCOF parce que dans les écoles supérieures, on ne nous explique pas forcément c'est quoi la fédération, c'est quoi la COCOF, est-ce qu'on peut aller frapper à la porte du bourgmestre de l'échevin de la culture dans telle ou telle commune, C'est vraiment tous des manquements, je trouve, dans le parcours artistique professionnel. Donc la COCOF, c'est une institution publique qui alloue des subventions dans différentes matières. On est sous tutelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on a plus ou moins les mêmes matières et les mêmes compétences que la Fédération, mais on l'exerce sur un territoire beaucoup plus limité, qui est celui de Bruxelles, à destination des Bruxellois francophones et des Bruxelloises francophones. Avant d'arriver à la COCOF, j'ai été libraire sur la place Flaget à la librairie Bruxelles, et puis j'ai réussi des examens du CELOR. C'est un organisme qui s'occupe de recruter tous les fonctionnaires d'État belges, que ce soit pour les institutions fédérales, style l'INASTI, l'INAMI, etc., et aussi les institutions communautaires, régionales, les OIP, donc les organismes intérêt public, je pense. En réussissant les examens du CELOR, qui sont uniquement basés sur des équivalences de diplômes, donc le CESS, le bac, le master, on a après toute une série d'offres qui nous arrivent, mais dans 1 million de postes différents de matières qui nous intéressent ou pas du tout. Et donc c'est clair que moi j'ai eu beaucoup de chance que par le CELOR, il y ait justement une place qui s'ouvre dans une matière qui m'intéressait, dans le secteur du théâtre plus précisément, et du cirque, des arts de la rue et forain. Dans une institution pour laquelle, en tout cas, moi, je porte beaucoup d'estime et beaucoup d'affection. Je m'occupe vraiment des dossiers plutôt liés au théâtre, sachant que le théâtre, c'est pas forcément le théâtre comme on l'entendait avant. Ben, sur une scène, dans un lieu culturel, avec un rideau qui s'ouvrait, les coups qui étaient frappés avant, dans un jeu plus classique, le public n'existait pas, en fait. Ici, il y a quand même de plus en plus de formes où les comédiens et comédiennes s'adressent directement au public, dans des lieux non dédiés, dans les espaces publics. Et donc, c'est là où il y a une très chouette et très réjouissante évolution, je trouve, sur tout ce qui concerne le théâtre, où on parle plutôt des arts de la scène ou des arts scéniques. Et donc, c'est clair que, par exemple, moi, dans les dossiers dits théâtre, j'ai tout ce qui est les lieux de résidence, les bureaux de diffusion, d'accompagnement et de production, quels que soient les secteurs qui accompagnent les projets artistiques. Alors, personnellement, j'avoue que j'avais une vision des fonctionnaires qui n'était pas toujours très florissante et qui ne l'est pas toujours non plus, on ne va pas se mentir. Au tout début, j'étais persuadée que tout le monde était en 4-5e à la COCOF parce qu'il n'y avait jamais personne le vendredi. Et donc, moi, je me retrouvais toujours toute seule le vendredi en me disant « c'est quand même fou, ces fonctionnaires qui sont tous engagés à temps partiel ». Et en fait, c'est simplement qu'il n'y avait pas de pointeuse et le week-end commençait le jeudi soir. Après, même encore parfois maintenant, comme on a du télétravail, c'est vrai que ce qui est toujours rigolo aussi, c'est par exemple, le jeudi à midi, des personnes qui te disent « bon week-end, à mardi !» Et où, en fait, tu te dis potentiellement, ils font un télétravail vendredi et lundi, mais c'est toujours rigolo de s'entendre dire « bon week-end » le jeudi à midi. Je peux te raconter mon premier jour à la COCOF parce que ça vaut quand même un peu le détour. Donc, mon premier jour à la COCOF, j'arrive et on me dit « voilà, c'est ton bureau, assieds-toi là ». Donc, moi, je suis arrivée, il n'y avait personne pour me former parce que la personne à la place avant moi était déjà partie. Donc, j'ai appris mon boulot un peu toute seule sur le tas en me disant, comment est-ce que je vais dépatouiller tout ça. Mais donc, ça, c'est par la suite. Mais donc, mon premier jour, j'ai un de mes collègues qui est rentré dans le bureau, mais comme une furie, et qui s'est emparé du lampadaire sur pied en me disant « sale voleuse, c'est ma lampe, t'es à peine arrivée, tu voles mes affaires !» Et il est reparti avec son lampadaire aussi sec. Et donc, je me suis vraiment dit « oh purée, où est-ce que je suis tombée qu'ils reprennent sa lampe, moi j'ai pas de soucis. » Et puis vers 10h30, j'ai donc une collègue du bureau qui est arrivée. Il n'y avait pas de pointeuse à l'époque à la COCOF, puisque maintenant on a une pointeuse. Mais donc elle arrive à 10h30. Donc elle me salue très cordialement. « Bonjour, t'as la nouvelle ?»« Oui, bonjour. » Et puis elle a vidé en fait le contenu de son sac à main sur son bureau. Et puis elle m'a dit « Oh, mais je n'ai pas mes lunettes de travail. Oh, mais je ne peux pas travailler. » Je vais rentrer chez moi. Et puis, comme c'est loin, c'est pas la peine que je revienne. » Et donc, de fait, elle n'est pas revenue de la journée. Et donc ça, c'était mon premier jour à la COCOF, où vraiment, je me suis dit, ça va être un peu difficile quand même. Heureusement, ça n'a pas été si difficile que ça. Et on apprend très vite, finalement, parfois un peu à en rire aussi. Et puis à se dire, si ça convient à ces personnes-là. Pourquoi pas, mais c'est clair que Il y avait quelques petits cas quand même à la Cocof à cette époque-là aussi. J'avoue qu'à la Cocof, en tout cas moi, une des choses qui me porte, c'est qu'on a une flexibilité et une liberté assez conséquente, dans le sens où, tant que notre boulot administratif en tout cas est fait, notre chef de service nous encourage à être sur le terrain tout le temps. Donc moi, ça me permet d'être en contact avec des artistes, des collectifs, des lieux culturels, mais quasiment quotidiennement, d'aller autant de soirs que je veux par semaine voir la réalisation des projets qu'on défend, qu'on porte, qu'on subventionne, de découvrir des projets et puis de se dire « prenons rendez-vous, prenons contact, voyons comment est-ce qu'on pourrait vous aider, qu'est-ce qui pourrait être mis en place ». Je pense que l'un des avantages que j'ai aussi par rapport à certains collègues, et je sais que mon homologue à la fédération, donc Florian Kiriluk, a le même ressenti, on vient tous les deux d'école artistique. Je pense que par conséquent, on a une plus grande sensibilité aussi parfois aux demandes, aux accompagnements des artistes, parce qu'on sait par quoi ils sont passés, parce qu'on connaît cette réalité-là aussi, et que réaliser notre job, le faire à fond et le faire bien, c'est en fait aider ces personnes-là, là où peut-être nous, on aurait aussi aimé avoir un interlocuteur ou une interlocutrice passionnée, dévouée ou en tout cas consciente des réalités de terrain.
T'es quand même plus sur les planches, donc...
Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je regrette les planches ou si en travaillant dans le théâtre, j'ai jamais envie de retourner à la scène. Dans un sens, oui, ça me manque parce que j'ai toujours aimé ça et que je trouve ça très chouette. Après, mon travail me prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est mon travail qui me prend beaucoup de temps ou si j'ai envie de mettre énormément de temps dans mon travail. Mais donc, à choisir, je préfère aller voir des projets dont j'ai lu le dossier, qu'on a réussi à subventionner, ou simplement pour découvrir des regards, des personnalités artistiques, des dialogues, des projets portés par d'autres, que de prendre ce temps-là pour potentiellement rejoindre une troupe, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Après, je sais que dans ma conception et dans mes valeurs, j'aurais du mal à ne pas avoir un conflit d'intérêt aussi en retournant à la scène, en me disant simplement, voilà, en fait, je travaille dans ce secteur-là. Je ne voudrais pas, par exemple, qu'un lieu me dise... Oh ben oui, super, Émilie, on va prendre ton projet, juste parce qu'en fait, je suis Émilie Duvivier, que je travaille à la Cocof, que je suis une porte d'entrée administrative pour déposer un dossier de subvention. J'aurais l'impression d'avoir un passe-droit si ça arrivait, mais en tout cas, c'est clair que c'est quelque chose sur lequel moi, je serais mal à l'aise par rapport à ça. Donc oui, le jeu me manque. Après, j'ai... plein d'autres activités, plein d'autres passions. Et c'est vrai que pour le moment, je m'épanouis plus dans tout ce qui va être les créations manuelles, si je peux appeler ça de l'art plastique en tout cas, et qui est une autre forme d'expression, mais voilà, où je n'ai pas ce lien, entre guillemets, direct avec le théâtre, la scène ou autre, mais où je peux exprimer aussi simplement de la créativité, qui est quelque chose qui me porte et qui est nécessaire en tout cas au quotidien. Ici à la Cocof, mon objectif premier, c'est vraiment... celui du service public. Être en contact avec les gens, être disponible par mail, par WhatsApp, par SMS, par téléphone, par rendez-vous. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Je ne suis pas derrière mon bureau à traiter un dossier comme si c'était n'importe quel dossier, j'ai envie de dire. Chaque dossier est relié à une personne, à un projet, à un collectif. Et c'est vraiment quelque chose que je défends, en tout cas au quotidien. C'est ce lien humain à humain qui apporte énormément, et puis qui parfois est aussi très déstabilisant, dans le sens où ça m'est déjà arrivé de devoir simplement refuser un projet, pas parce que moi je le refuse en tant que Émilie, responsable du secteur théâtre, mais en tant que le jury a dit non pour telle et telle raison, le dossier n'est pas éligible, il n'y a plus d'argent, enfin bref, plein de raisons, et d'avoir des artistes qui au téléphone me disent « de toute façon tu ne comprends rien, tu n'es pas à notre place et tu ne sais pas ce qu'on traverse, tu ne te rends pas compte ». Et en fait c'est très difficile parce que si en fait je me rends compte de tout ça, et non je ne le vis pas quotidiennement, mais ça n'empêche que dans un degré d'empathie, bien sûr que si, que je comprends et que c'est aussi difficile de devoir annoncer un refus que pour la personne qui entend le refus, même si moi ça m'impactera moins directement dans l'avenir. Donc ce genre de remarques, c'est triste, ça fait mal, ça blesse. Dans les faits, c'est pas ça la majorité, heureusement, des contacts. Il y a plein de dossiers qui sont méritants ou qui sont des chouettes projets et puis qui simplement ne rentrent pas dans ce qui s'appelle l'accord de gouvernement. Donc l'accord de gouvernement, il est pris en début de législature par le gouvernement, en tout cas pour nous, bruxellois francophones, donc celui de la COCOF, et il trace les orientations politiques sur les 5 ans à venir. On ne sait pas ce que le prochain gouvernement dira. Peut-être qu'ils partiront dans une toute autre optique. Et donc, évidemment, une fois qu'eux ont fixé ça, par exemple, il y a des très chouettes projets de création ou de production ou autres qui viennent frapper à notre porte, ou même des nouveaux lieux de résidence, par exemple. Et puis, parfois, c'est simplement, désolé, en fait, ça ne rentre pas dans les orientations politiques du moment. Ce n'est pas que le projet n'est pas bon, c'est juste qu'en fait, les priorités financières ne seront pas mises à ces endroits-là. Après, il y a la frustration de ne pas pouvoir soutenir une série de projets. Et puis, il y a aussi la réjouissance de se dire qu'il y en a toute une série d'autres qu'on peut soutenir et qu'on peut accompagner. En 9 ans, je pense qu'une de mes plus belles réussites, c'est tous ces liens qui sont tissés finalement et qui m'apportent beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça qui peut combler tous les autres problèmes ou toutes les autres tristesses ou tous les autres bémols de la fonction. Ici, par exemple, une des plus grosses sources de frustration qu'on a aussi eues à la COCOF, c'est qu'on est passé sur des formulaires numériques. Là où avant, donc, on était plus souple parce qu'il y avait le papier ou le mail, là maintenant, les demandes doivent rentrer via ce formulaire Irisbox sur une plateforme en ligne. Il n'y a pas eu spécialement de formation, d'accompagnement direct. Et donc, c'est aussi pouvoir se dire, OK, c'est une nouveauté. La question de la fracture numérique est une réalité très forte, en tout cas à notre époque. Comment faire pour accompagner ? C'est de se dire aussi, OK, tu n'arrives pas à rentrer ta demande ? C'est pas grave, tu viens à la COCOF avec ton ordinateur, on se met côte à côte et on fait ta première demande ensemble. En tout cas, moi, j'estime que c'est essentiel. À nouveau, ma direction et ma supérieure me laissent aussi cette liberté-là et ce champ-là de pouvoir dire, en fait, si tu as besoin de prendre un rendez-vous d'une demi-heure ou d'une heure avec telle personne pour faire ça, pas de souci. Et je pense que tout ça, moi, me construit dans mon travail et m'apporte énormément parce que j'estime que c'est ça, en fait, la fonction publique aussi. C'est ça, être responsable d'un secteur et fonctionnaire. Il n'y a rien à faire dans le mot « service public », c'est d'abord un service à destination du public. Et donc, c'est pour ça que j'accorde une très grande importance à être en contact très régulier avec les ASBL et les artistes, parce que l'idée, c'est vraiment que nos aides doivent être accessibles pour eux, doivent être compréhensibles. Ici, bêtement, les règlements, une des modifications que j'aimerais faire et qui est vraiment purement basique, c'est juste les rendre plus inclusifs. Pour le moment, ils sont écrits au masculin, tous, très genrés. Prenons donc le cas du fonds d'acteurs. Simplement, j'aimerais bien juste qu'on puisse le renommer en fonds d'artistes ou fonds d'émergence. Mais juste, pour donner déjà dans notre texte administratif une valeur plus inclusive. Cette question du langage inclusif ne plaît pas à tout le monde. Ici, moi, je sais que dans mon service, je suis la seule à le pratiquer, je suis la seule à l'utiliser. Ça a été plus laborieux au début aussi, surtout qu'on n'a pas forcément de formation à ce sujet-là. Donc, c'est un peu grappiller des informations à différents niveaux. Mais je trouve ça important, même si ça peut paraître peut-être dérisoire ou une goutte d'eau, pouvoir se dire que mes défenses de dossier sont écrites en inclusif, que tous les textes que je publie qui font référence au label ou qui font référence à quoi que ce soit d'autre soient inclusifs et pas uniquement genrés au masculin. C'est vraiment quelque chose en tout cas que moi j'ai à cœur et que je pratique maintenant quotidiennement. L'autre difficulté rencontrée dans les impulsions, en tout cas, que j'essaye de mettre en place, donc, qui est cette question du budget. Ça va faire maintenant 2 ans que j'ai repris le secteur du cirque, des arts de la rue et forain. Quand j'ai repris le secteur à l'époque, il y avait 8 dossiers. Alors pour moi, 8 dossiers, ce n'est pas un secteur. Le théâtre, quand je suis arrivée en 2014, je pense qu'il devait y avoir plus ou moins 40 dossiers. Là, maintenant, je suis presque à 120 dossiers par an. Donc, ça a triplé. Et en sachant que d'une année à l'autre, évidemment, ce nombre peut fluctuer en fonction des montants qui sont donnés, puisqu'on travaille avec des enveloppes fermées. Et donc, évidemment, si certains projets prennent plus de sous, il y a moins de projets. Si des projets prennent moins de sous, il y a plus de projets. Et donc, quand j'ai repris le secteur du cirque, des arts de la rue et forain, c'est clair qu'à un moment, je me suis dit, pourquoi est-ce que les règlements en théâtre ne pourraient pas s'ouvrir à ces compétences-là et à ces matières-là ? Évidemment, ça ne doit pas se faire au détriment du théâtre adulte professionnel. Et donc, si on veut inclure des nouveaux secteurs, il faut obligatoirement une revalorisation de l'enveloppe. Il faut savoir aussi que la COCOF est sous tutelle de la fédération. Donc, ça veut dire qu'on reçoit une dotation financière de la fédération, qui est donc un montant fixe, qui est inchangé depuis des années, qui ne tient pas compte des inflations et des indexations diverses. avec un degré de tolérance, d'écoute et de respect mutuel de manière vraiment équitable et répartie. L'objectif premier de ma vision du féminisme, c'est plus d'égalité pour tous. Après, j'ai la grande chance de ne jamais avoir été victime, en tout cas d'actes antiféministes ou de violences plus lourdes à ce niveau-là. Je suis une femme blanche, j'ai pu faire des études, j'ai eu la chance de trouver chaque fois un travail immédiatement, donc je n'ai jamais été au chômage. Pareil dans la fonction publique, un salaire est un salaire, que je sois une femme ou que mon collègue soit un homme, c'est des questions de barème. Donc mon collègue masculin qui a plus d'années d'expérience que moi ou qui est à la COCOF depuis 15 ans aura peut-être un salaire qui est plus conséquent, mais dans 15 ans j'aurai le même salaire que celui qu'il a actuellement. Donc voilà, j'ai jamais subi ce genre de discrimination, en tout cas très forte. Et donc c'est vrai que c'est parfois des questions qui m'agitent moins, que je ressens énormément à travers une multitude de projets et de thématiques actuellement portées à la scène, qui fleurissent autour de ces questions-là et qui sont nécessaires vraiment. Après, force est de constater, en tout cas dans le secteur culturel et même ici, nous, au sein de l'administration, sur l'équipe qui s'occupe du service culture, donc ici à la COCOF, on a 4 hommes et tout le reste, ce sont des femmes. Dans le milieu culturel, la plupart de mes contacts sont des femmes aussi. C'est quand même très réjouissant de voir que les choses bougent dans les directions, par exemple. Dans les faits, il y a encore plus de directeurs que de directrices, mais la plupart des équipes en dessous sont des femmes, vraiment dans tous les lieux. Je siège aussi en commission théâtre au WBI. C'est le Wallonie-Bruxelles International, donc c'est tout ce qui va concerner les aides de mobilité ou de promotion à l'étranger pour des spectacles. Et donc dans cette commission théâtre, je pense qu'il y a 2 hommes, peut-être 3, mais on les voit peu. Je crois qu'on doit en voir une réunion sur 4, et tout le reste, ce sont des femmes. Ici, on a eu toutes des auditions pour les conventions pluriannuelles, qui sont une subvention spécifique dans le secteur culture à la COCOF. C'était flagrant en audition. On avait 85% de femmes présentes, soit qui sont coordinatrices, médiatrices, parfois responsables administratives et financières, quelques directrices quand même, pour défendre les projets, pour représenter leurs institutions ou leurs lieux. C'est à la fois très réjouissant parce que c'est un milieu qui est très féminin. Et c'est clair qu'en même temps, c'est un fait avéré, la plupart des spectacles et des pièces écrites à l'époque sont dédiés aux hommes, les rôles les plus intéressants sont portés par des hommes, et c'est pour ça que j'ai une grande affection pour tout ce qui est les écritures collectives ou les créations contemporaines, où justement on peut vraiment, en tant que femme, s'emparer de rôles, écrire son propre rôle. Je trouve que ça, c'est vraiment une très belle évolution, en tout cas dans le secteur culturel et artistique. Il n'y a rien de plus réjouissant que les collectifs. Ici, j'ai rejoint l'Assemblée générale du Théâtre de la Vie, depuis que c'est la délégation Ravie, qui est donc un collectif qui a pris la tête de la direction. Ce sont des jeunes et c'est incroyable de voir la vision horizontale, égalitaire, qui est, je trouve, novatrice dans le secteur et mérite d'être observée peut-être par d'autres lieux pour voir comment fonctionner autrement. Je m'estime chanceuse et je pense que c'est aussi pour ça que mon travail, je le fais vraiment avec beaucoup de passion et beaucoup d'engagement. Et donc c'est ça aussi, je pense, qui, peut-être contrairement à d'autres fonctionnaires qui en fait font leur tâche, et quand elles sont faites, je sais que moi j'ai aussi cette volonté-là à chaque fois de me dire « Ok, en fait j'ai 10 minutes de voix, qu'est-ce que je peux faire ? Comment rentabiliser ce temps ? Comment trouver un nouveau projet ? Comment aller ?» Et après, on va pas se mentir que parfois c'est épuisant et un peu chronophage aussi. Mais c'est clair que moi, c'est ça qui me fait que je me lève chaque matin.
Émilie Duvivier, pépinière théâtrale. C'était un podcast produit par Axel Magazine. Réalisation, montage, mixage, Corinne Ricuor. Participation éditoriale, Sabine Panet. Générique, Marielle Van Kamp. Merci à Émilie pour la rencontre. Extrait sonore, Prank, Pixabay. plus d'infos sur notre site www.axelmag.be.